que nous sommes tous très impatients d'entendre l'étoile de La Rochelle, Isabelle Boukobza, sur le thème précisément de neutralité et d'analyse critique du droit.
Merci Monsieur le Président. Merci beaucoup François pour ce colloque, pour toute cette organisation. Comme tu l'as rappelé, il est difficilement contestable de dire que le droit est un ensemble de prescriptions, de commandements, et que ces commandements expriment ou traduisent des jugements de valeur. En effet, le droit est l'instrument par lequel le pouvoir mène sa politique, et dans ce sens, le droit lui-même n'est pas neutre et ne peut évidemment être neutre. Les théoriciens du droit diraient qu'il s'agit d'un langage objet, prescriptif, sur lequel porte un métalangage, en principe descriptif, un discours savant, celui qui est tenu par des universitaires. En même temps, comme chacun sait, les juristes questionnent toujours la neutralité, la scientificité ou encore la portée critique de ce discours savant. À cela, il faut ajouter une difficulté supplémentaire. On rencontre dans la littérature juridique les expressions « neutralité du droit » ou « droit neutre » qui sont parfois utilisées par ceux qui revendiquent une approche dite critique des normes juridiques. Cette démarche s'attache par exemple aux effets présumés des normes sur leurs destinataires. Par l'usage de l'adjectif « neutre », il est fait état d'une qualité qui serait prétendument celle du droit, entendu comme un ensemble de normes censées s'appliquer indistinctement à tous les individus en vertu de l'universalisme juridique ou du principe d'égalité. L'approche critique de ce prétendu droit neutre souligne qu'il ne serait ni égalitaire ni neutre et au contraire participerait au maintien des inégalités et des hiérarchies sociales. La critique du défaut de neutralité s'applique également au discours doctrinal et à l'enseignement universitaire du droit, lui-même prétendument neutre, mais qui ne ferait lui aussi qu'entretenir les inégalités. À ce discours classique, faussement neutre et réellement engagé en faveur de la conservation du système, il faudrait donc opposer un discours critique. Ces quelques phrases introductives illustrent à elles seules toute la difficulté du sujet que je me suis donné à moi-même. Et nous pourrions facilement tomber d'accord pour dire que nous ne sommes pas d'accord et en rester là. Je vous rassure, je vais quand même essayer d'expliquer ces désaccords sur la neutralité et la dimension critique du discours des juristes. Ces questions sont loin d'être nouvelles. Elles ont donné lieu à un débat passionnant entre deux grands professeurs de droit, Daniel Lochac et Michel Tropper. Tout le monde connaît cette controverse sur le positivisme et les juristes sous Vichy. Je ne vais pas la reprendre. Je dirais simplement que, pour dire d'où je parle, que j'ai quelque affinité avec le positivisme épistémologique. Mon propos visera plutôt à pousser la discussion sur certaines des questions que pose encore aujourd'hui cette controverse. Travail scientifique et engagement, c'est-à-dire expression des convictions personnelles, sont-ils compatibles? Peut-on être neutre et critique? L'analyse critique du droit ne postule pas un abandon de toute prétention à la neutralité et donc à la scientificité. La complexité de ces questions tient en ce qu'elles expriment un dilemme. Ou bien l'universitaire demeure neutre pour garantir la scientificité de son travail, mais il se prive alors de porter un regard critique sur le droit, ou bien il privilégie l'analyse critique, mais risque de perdre son caractère scientifique. Est-il possible de sortir de ce dilemme? Ne peut-on avoir la scientificité et la critique? Peut-on renoncer à la neutralité sans renoncer à la science? Il me semble qu'il y a au moins trois façons de sortir de ce dilemme qui peuvent correspondre à des positionnements, parfois à des pratiques, à des courants plus ou moins bien identifiables dans la communauté juridique académique. Selon les objectifs que ces courants se donnent, selon les méthodes qu'ils se fixent pour appréhender le droit, selon la conception même qu'ils ont du droit, ils entendent nécessairement de façon différente les termes de ce dilemme. Cela nous amènera inévitablement à relever, pour chacun de ces points de vue, les différentes définitions du terme « neutralité » et de l'expression « analyse critique » qui sont utilisées parfois pour échapper au dilemme. J'adopterai pour cela un plan en trois parties. La première sera consacrée au mouvement dit critique du droit. La deuxième et la troisième auront pour objet des positionnements mieux connus et à l'égard desquels les mouvements critiques se présentent comme des alternatives. Il s'agit de la dogmatique juridique, d'un côté, et du positivisme juridique, en particulier au sens épistémologique. En effet, alors que la dogmatique tente de sortir du dilemme en adoptant une attitude équivoque, qui associe prescription discrète et description du droit, certaines expressions du positivisme épistémologique font de la condition de la neutralité, une condition, sinon la condition, pour la production d'un discours critique. Je commence donc par les mouvements dits critiques du droit. Ce premier positionnement peut être rattaché à un ou plusieurs courants critiques, plutôt qu'à une école à proprement parler. En effet, dans un passé qui n'est pas si lointain, c'est-à-dire dans les années 70, il y a bien eu un mouvement dit critique du droit. Cette association de chercheurs, dont la perspective était pour la plupart associée à une grille de lecture marxiste, n'existe plus en tant que telle aujourd'hui. À côté de ce mouvement composé de publicistes comme de privatistes, des individualités qui n'ont pas fait profession de foi marxiste peuvent néanmoins être considérées comme appartenant à une mouvance critique. Dans le champ du droit public et sans aucune prétention à l'exhaustivité, on citera Daniel Lochac, Jacques Chevalier, Jacques Caillos et dans le domaine théorique, François Host et Michel Van de Kerkhove. En effet, leur méthode et plus largement leur démarche dans l'appréhension du droit présente des convergences avec le mouvement critique du droit. Aujourd'hui, des manifestations scientifiques, des revues, des programmes de recherche, le programme Régine, donnent à voir un regain d'intérêt pour une approche critique du droit. Et pour être complet, mais comme je ne peux pas l'être, il faudrait encore citer l'influence du mouvement américain Critical Legal Studies, dont je ne parle pas. Ces courants affichent une préoccupation prioritaire pour la production d'un discours critique sur le droit et une forme de rejet de la neutralité. Ainsi présenté, on pourrait penser qu'il n'échappe donc pas du tout au dilemme et qu'en renonçant à la neutralité, ils renoncent à la dimension scientifique de leur discours. Cette première impression est pourtant contre-productive. En effet, ces courants sortent du dilemme en revendiquant la possibilité même d'aborder un discours qui sera scientifique, non pas parce qu'il est neutre, mais précisément parce qu'il est critique. Ces courants critiques ont en commun d'être porteurs d'un discours de relativisation de l'idée même de neutralité scientifique, que l'on désigne, comme on l'a déjà dit, comme neutralité axiologique, conçue à la fois comme un idéal et comme un principe méthodologique des sciences sociales d'inspiration positiviste. Elle désigne la qualité d'un discours qui ne comporte pas de prescription ni de jugement de valeur. Cette exigence de neutralité axiologique est jugée dans le champ des critiques comme irréaliste et pratiquement impossible pour quatre raisons. Tout discours est d'abord socio-historiquement situé et déterminé, et donc tout scientifique peut être rattrapé par cette situation. Tout discours s'inscrit dans un contexte sociopolitique et a à un degré ou à un autre un effet social, par exemple un effet de légitimation. Troisièmement, cette neutralité axiologique est bien loin de caractériser ce que font les juristes de l'université qui n'hésitent pas à prendre parti ou à se taire selon qu'ils contestent ou pas un choix législatif ou jurisprudentiel. On y reviendra en évoquant la dogmatique juridique. Enfin, quatrièmement, tout projet scientifique consiste en principe en la mise en œuvre d'un programme qui repose sur des choix épistémologiques qui comportent nécessairement leur part de déterminisme, de subjectivité et d'engagement. En dénonçant ainsi les limites de la neutralité, on pourrait donc penser que le juriste n'a pas d'autre choix que de s'engager exclusivement dans une critique du droit fondée sur des jugements de valeur, qui dénoterait donc d'une démarche exclusivement pratique. Cette attitude critique n'est pourtant pas celle qui définit principalement les juristes critiques dont je parle ici, avec un bémol toutefois, car ces juristes ne s'interdisent pas d'exprimer une opinion personnelle ou de relever une option normative lorsque celle-ci permet de clarifier un positionnement ou tout simplement parce qu'il n'est pas possible de séparer, selon eux, les convictions du citoyen de celles de l'expert face à une législation que l'on repousse d'un point de vue moral. Ce bémol étant dit, je répète, pour ces juristes, dénoncer les limites de la neutralité, ça n'est pas renoncer à une conception exigeante de la science du droit. En effet, pour reprendre les termes de Daniel Lochac, rendre compte du droit positif est une chose, porter sur lui un jugement en est une autre. Il en résulte que le droit objet de l'analyse critique ne peut être que celui qui est et non celui qui doit être. Cette perspective présente trois caractéristiques majeures. Elle dénote d'une attitude de connaissance, en prenant comme point de départ un jugement de réalité, le droit qui est, ce qui implique un refus de toute confusion entre droit et morale. Elle donne à voir ensuite le droit dans toutes ses manifestations, autrement dit comme un instrument de libération, mais également comme un instrument d'oppression ou de conservation. Elle évite aussi la confusion entre le discours du langage objet et celui du métalangage. Il ne s'agit pas de contribuer au bon fonctionnement de l'ordre juridique, de produire de la normativité, mais de s'intéresser aux processus sociaux et politiques de production et d'application du droit. Car c'est précisément cette distanciation entre le droit et le discours qui porte sur lui qui en donne une possible vision critique. Le caractère scientifique de l'analyse consiste donc à procéder à des processus de déplacement, de dévoilement, de changement de point de vue à l'égard de l'objet observé. En somme, elle permet d'opérer cette analyse critique, une rupture avec la réalité telle qu'elle est perçue ou vécue. Cette démarche donne donc lieu non seulement à des descriptions du droit en vigueur, mais également à l'élaboration d'explications qui traduisent une certaine vision des rapports entre le droit et la société, et donc entre la réalité sociale et la politique. En dépit du très grand soin que ces auteurs prennent pour expliquer leur positionnement face à la neutralité et à la scientificité, eh bien, ces auteurs sont souvent taxés d'être strictement militants ou réduits à l'expression de positions politiques par les représentants de la dogmatique juridique. Si cette mésestime n'est certainement pas dénuée d'arrière-pensée politique, elle peut aussi s'expliquer par le fait que le discours des critiques ne se place pas toujours à un niveau de langage différent de celui des auteurs dogmaticiens. En effet, ce discours apparaît comme contestataire de la dogmatique juridique, dogmatique à laquelle maintenant je vais consacrer quelques développements. Face donc à ce positionnement très tranché des mouvements critiques sur la question de la neutralité et de la scientificité, le positionnement de la dogmatique traditionnelle paraît plus difficile à saisir. L'expression dogmatique juridique est assez largement utilisée pour désigner une science pratique des juristes et plus largement des experts en droit. En effet, la dogmatique ne se limite pas à décrire le discours législatif, constituant ou jurisprudentiel, elle le transforme lorsqu'elle l'interprète ou en propose la systématisation. Christophe Jamin et Philippe Gestaz entendent ainsi par dogmatique une étude savante, raisonnée et construite du droit positif sous l'angle du devoir-être, c'est-à-dire de la solution souhaitable et applicable. Je les cite encore, ils disent « Les auteurs prennent constamment parti et pour ainsi dire à chaque ligne qu'ils écrivent, même si le lecteur ne s'en rend pas toujours compte, car tous les mots de la loi ou du juge prêtent, si peu que ce soit, à l'interprétation. L'auteur qui, sous prétexte de neutralité, voudrait bannir toute opinion personnelle de son discours, n'aurait d'autres ressources que la paraphrase. La frontière, donc, ici, entre le langage objet et le métalangage, tend à disparaître dans le cadre de ce discours globalement normatif. La dimension critique de la dogmatique dont on parle ici est avant tout donc de l'ordre d'une critique axiologique. On exprime une préférence personnelle sur la base d'une argumentation qui mêle description et prescription. En même temps, cette dominante pratique et prescriptive n'est pas du tout conçue comme une activité engagée ou militante. Au contraire, l'activité du juriste engagé dans le milieu universitaire est souvent perçue comme une figure repoussoire. Là encore, il faut peut-être relativiser cette dernière affirmation. La visibilité de la formulation de ces préférences sera certainement plus évidente dans un débat sensible comme celui sur le mariage homosexuel que sur celui qui porterait sur la qualification à donner à un contrat. Cependant, dans les deux cas, le juriste tranche, il prend position. Cette visibilité plus ou moins forte de l'opinion personnelle exprime un faible attachement à la neutralité, mais pas un renoncement, probablement en raison du fait que les auteurs adhèrent consciemment ou inconsciemment à l'idée que la neutralité est une condition de la scientificité du discours de l'expert. La position doctrinale de la grande majorité des juristes universitaires demeure donc aujourd'hui dans un entre-deux non défini que Christophe Jamin et Philippe Gestaz appellent entre l'opinion discrète et l'opinion revendiquée. Le caractère subjectif de ces opinions est également facile à démontrer en raison des controverses auxquelles ces opinions doctrinales donnent naissance et dont on perçoit souvent difficilement les raisons lorsqu'elles sont exprimées sous la forme d'une argumentation juridique et apparemment technique. La clarification des discours dogmatiques revient alors à un autre groupe de juristes qui se réclament d'une épistémologie positiviste et pour lesquels la neutralité est la condition d'une analyse critique. Précisons que le positivisme dont il est question caractérise donc cette épistémologie dont on a déjà parlé, kelsenienne, mais également issue des travaux de Norberto Bobbio. Cette épistémologie repose sur deux piliers, la neutralité axiologique, on en a déjà donné une définition, et le non-cognitivisme éthique sur la base duquel on ne peut connaître les valeurs, elles ne peuvent être l'objet que de préférences ou d'émotions. Il me semble que dans le cadre du positivisme épistémologique, et je me contenterai de celui-là, de celui qui est pratiqué par les théoriciens de l'école analytique et réaliste, la neutralité apparaît comme la condition d'une connaissance critique du droit. Et ceci en raison même de l'objet de l'analyse critique. Il s'agit précisément du droit en tant que langage, dont la signification est en permanence discutée. Le droit est le produit d'interprétations. Les interprétations supposent des évaluations. Des interprétations qui sont faites par les acteurs habilités à produire le droit et par la doctrine. C'est donc le discours des juristes au sens large que le théoricien envisage d'analyser pour rendre claires les oppositions doctrinales. Autant dire que ce travail de clarification suppose de faire l'effort, parce qu'il ne s'agit que d'un effort, de ne pas prendre parti et d'envisager toutes les thèses en présence. En effet, la théorie se situe à un niveau de langage différent de celui de la dogmatique juridique. La théorie est une réflexion critique sur le discours de la dogmatique. On entendra ici nécessairement la notion de critique au sens d'une méthode d'observation qui consiste à passer au crible, à décortiquer les discours des juristes pour en saisir toutes les expressions. Ce travail analytique présente des points communs avec l'analyse réalisée par le courant critique que j'ai présenté plus tôt. Relever et enregistrer les ambiguïtés des notions, dévoiler des définitions implicites, des connotations axiologiques souvent cachées, et en particulier mettre en évidence des présupposés théoriques ou idéologiques. Ou encore une autre idée partagée, l'idée qu'il convient d'expliquer et non de justifier. Expliquer, par exemple, la mobilisation d'arguments qui sont a priori identiques pour soutenir des solutions qui sont divergentes. Dernier point, Monsieur le Président, ce travail de clarification a vocation à rendre in fine les jugements de valeur possibles, c'est-à-dire à permettre à chacun, et en particulier aux étudiants, de se forger un esprit critique dès lors que les raisons juridiques et politiques des opinions doctrinales sont mises en lumière. Le choix de la neutralité axiologique est donc un choix politique, imprégné d'une vision du monde, celle du relativisme éthique, selon lequel chacun doit être mis en mesure de se déterminer en toute autonomie sur les questions de valeur, sur les questions de politique qui sont exprimées en la forme juridique. Je vous remercie.